Grand Paul à la Marche, un podcast des élèves de 4e du collège de la Charité-sur-Loire. Il a vécu pendant la guerre et était un grand journaliste. Paul Gisson était directeur de l'ORTF, l'unique radio et télévision de l'époque en France. Pendant ses vacances, il venait dans la Nièvre à la Marche. Ici, un habitant de la Marche et Blaise Sandra, son ami de toujours, témoignent et racontent leurs souvenirs. Nous entendrons aussi des extraits de correspondances et des poèmes de Paul Gisson.
Depuis sa jeunesse, Paul Gisson est fasciné par la magie, le cinéma, la poésie et la radio. Il a commencé à travailler comme reporter pour Radio Luxembourg, un journal parlé en 1937. Au début de la Seconde Guerre mondiale, après la débâcle, il avait commencé par rejoindre Vichy, comme les autres. Mais il claque vite la porte. Par la suite, il continue à faire des reportages tant bien que mal, à Montpellier, Nice, Monte-Carlo. En 1945, on reconnaît ses compétences dans les hautes sphères. Et on l'envoie à New York en tant que correspondant permanent du Parisien Libéré aux États-Unis et en tant que reporter pour la RTF. Ces années sont très heureuses pour lui. Plus tard, il en parlera souvent avec nostalgie. C'est l'époque de l'insouciance et de la liberté. Il voyage beaucoup grâce à son métier, tout le monde l'aime bien et lui fait confiance. En 1946, Vladimir Porcher, le nouveau directeur général de la radio-télévision française, rappelle Paul Gisson à Paris pour lui confier la direction des programmes de la radio française. Il a alors un rôle important et participe à la création d'une radio de qualité, qui laisse une grande place à la création artistique.
Moi, Grand Paul, comme on l'appelait avec les copains, je l'ai rencontré en 1934. Et depuis, on était amis. Quand je me souviens des années passées avec lui, c'est d'abord aux vacances à la Marche que je pense. La Marche, c'est un village nivernais, tout proche de la Charité-sur-Loire. Quel rapport avec Gisson, allez-vous demander ?
Ah, Gisson, on s'en rappelle bien par ici. En fait, son beau-père, M. Dourif, y avait fait l'acquisition de ce qu'on appelait le château. Franchement, ça ne ressemblait pas à un château, c'était plutôt une grande maison au milieu d'un parc. Ce qui était vraiment chouette, c'est qu'elle était au bord de la Loire, qu'on pouvait voir toute proche depuis la fenêtre des chambres. M. Dourif, c'était un Américain. Enfin, il avait fait fortune en Amérique. Il avait inventé le bleu de méthylène et avait fait fortune dans l'industrie chimique. On ne le fréquentait pas trop, c'était un monsieur, mais Paul Gisson, ce n'était pas pareil. Il était sympa, même si on se moquait un peu de ses lubies de parisien. La Loire avait la réputation de regorger de poissons en tout genre, surtout de gigantesques poissons-chats que l'on appelait des silures. Lui, il adorait la pêche et il rêvait d'en attraper un. Certains marchois se vantaient d'en avoir capturé de plus de 2,50 m de long. Ça le faisait enrager et nous, on rigolait. Le pauvre, il est mort trop jeune en 1963. Je crois qu'il n'avait même pas 60 ans. Mais il a voulu être enterré ici, dans notre petit cimetière.
À des pointes de châtaigne, sous la grille du château, s'écorche les musaraignes, dont le sang caille le museau.
Le vent gêne une lumière, d'automne à saisir le cœur, en allant sur la rivière, l'ombre flottante du passeur.
Dans une vapeur de prunes, où s'endeuille le matin, l'alambic de la commune distingue même les chagrins.
Serait-ce moi qu'on enterre, tête folle au bord de l'eau? Ce n'est pas moi, c'est mon frère, près des pleureuses et des roseaux.
Une cloche du village rappela ici-bas l'enfant qui ne tient à ses nuages que par un fil du cerf-volant.
Il restera dans nos veilles cette étoile en paille d'or et l'écureuil qui sommeille dans sa fourrure de bois mort.
Quand Paul a découvert ce lieu en 1947, après son mariage avec Christiane, il est tout de suite tombé sous le charme. C'est là qu'il aimait venir se changer les idées après les semaines difficiles et fatigantes à Paris. On s'y retrouvait surtout l'été. La maison était toujours ouverte pour les amis et j'y suis allée souvent, à certaines époques. On arrivait par le train, à la gare de la Charité, avec ma femme, Raymond, et notre chien, Vagoni. Et la fête commençait. Les vacances, quoi.
Mon cher Grand Paul, de ce pas, nous allons prendre nos billets Gare de Lyon pour le train de 7h50. Nous arrivons donc à la Charité, mercredi 12 juillet, vers 11h30 du matin. Wagon-lit, Raymond et Chibi. Quelle joie l'idée d'être couché dans l'herbe.
Un petit verre de vin à la terrasse du café près de l'église de la Charité, et c'était parti. on montait en voiture et 5 minutes après, on faisait notre entrée dans la cour. Ces gosses, Alain et François, arrivaient en courant pour se jeter dans les bras de Raymond qu'ils aimaient bien et qui était devenu ami avec Christiane. Le chien sautait partout, tout le monde rigolait. C'était le bon temps. Dans ces moments, j'avais vraiment le sentiment qu'on était comme une grande famille. Le château était un endroit magique. Normal, Grand-Paul était fasciné par la magie et nous ne rations jamais une occasion de nous y réunir.
D'un aveugle et sourd de naissance, ce fantôme est sans espérance, aussi revient-il sur la terre, pressé de finir en doublé exemplaire.
Il achèvera son parcours au soleil de guêpes et de confitures, quand la flâneuse par amour s'abandonne aux chasseurs de chevelures.
Dans les annonces du destin, retrouverai-je attendre ma longueur d'onde. Les nuits sans rêve sont trop longues pour se faire compter les jours sans pain.
Glissade de rayons de lumière, une voix de fille de l'air me transporte et je reste au sol, hachant sur moi tous les rossignols.
Le grand-père adorait aller pêcher. Quand il pêchait, il mettait un vieux casque colonial sur sa tête. D'où venait ce truc bizarre? Peut-être l'avait-il trouvé sur une brocante ou ramené de son voyage en Éthiopie, à l'époque où il était parti faire un reportage sur la politique du roi Haïla Selassie, à la veille de l'invasion de son pays par les troupes de Mussolini. Ça faisait causer, il s'en fichait. On montait dans la barque qui prenait à moitié l'eau et on partait après le petit déjeuner. On ne prenait pas grand-chose, mais ça l'amusait. Et moi, j'étais content d'être là, avec lui. L'après-midi, on allait souvent se balader à vélo le long de la Loire, dans les bois de Raveau ou sur les routes qui menaient à Sancerre ou Nohant. Quand on ne restait pas là, couché dans l'herbe, à lire ou faire la sieste, à discuter sans fin. Moi, j'adorais ces moments. Après le dîner, quand les enfants étaient couchés et que le village devenait silencieux, Paul réclamait le petit guéridon avec lequel on invoquait les esprits. Il était persuadé que le château abritait quelques bons vieux fantômes. Et à la nuit tombante, à la lueur des bougies, dans le calme de la campagne endormie où l'on ne percevait guère plus que le bruit du courant et le cri d'un hibou par les fenêtres ouvertes, on y croyait presque. Dans l'épaisse fumée des cigarettes qu'il allumait à la chaîne, on avait l'illusion de voir tourner la table. Cette atmosphère de mystère, Grand-Paul l'adorait, et Christiane se prêtait à son jeu avec joie.
On vient de sonner à la porte.
Personne.
Qu'est-ce que je me veux? De toute façon, ce fantôme aurait maintenant des cheveux blancs.
Comme moi, on sonne. Sans doute ne sait-il plus quoi faire de ses 10 doigts. Les mains mortes.
Quand je repense à ses souvenirs, je ne peux m'empêcher de songer au talent de poète du grand Paul. Il a toujours écrit de la poésie, mais dans les dernières années, il était si préoccupé par son travail à l'ORTF qu'il n'avait pas vraiment de temps à consacrer à l'écriture. Je crois bien que c'est à la marche qu'il pouvait le plus facilement écrire des vers. C'est là aussi qu'il donnait rendez-vous à notre ami commun, Nino Franck, pour créer les 2 comédies musicales qu'ils ont publiées et qui ont été mises en scène avec un certain succès. Là-bas, il avait du temps et peu de pression. Peut-être que la pêche n'était au fond qu'un prétexte pour être seul et voyager dans le monde de l'enfance et le merveilleux qui hantait ses textes.
Merci d'avoir écouté ce podcast réalisé par Driss, Enzo, Evan, Ilou, Luan, Nathan et Samuel. Merci à toute l'équipe de la Cité du Mot, Émilie, Graham, Lucie, André, Camille, Fanny et Thibault. Merci à Alice Duva, notre professeure de français, et merci à la Radio Bac FM. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts de nos camarades sur d'autres personnages célèbres, Lucie Rabutin, John King et Auguste Grasset.